Passion lire, la chronique littéraire de Gilles Labourroir. Bonjour, voici quelques minutes de littérature que je partage avec vous. Quand je pense à tous les livres qu'il me reste à lire, j'ai la certitude d'être encore heureux, disait Jules Renard. Aujourd'hui, Bonjour Tristesse, de François Sagan. Bonjour Tristesse est le premier roman de François Sagan, publié le 15 mars 1954, alors qu'elle n'a que 18 ans. Cette œuvre connaît un succès de scandale foudroyant et est récompensée du prix des critiques la même année. La narratrice, Cécile, 17 ans, passe ses vacances sur la Méditerranée avec son père, Raymond, 40 ans, veuve depuis 15 ans. Ce sont tous deux des êtres insouciants et légers. Raymond a pour l'instant comme maîtresse Elsa, 29 ans, et Cécile flirte avec un étudiant en droit de 26 ans, Cyril. Mais Raymond vient à s'éprendre d'Anne Larsen, 42 ans, directrice d'une maison de couture, volontaire et intelligente. Anne est une femme stricte et moralisatrice. Dès son arrivée, un combat subtil commence entre les trois femmes. Elsa tente de maintenir la relation avec Raymond, qu'elle devine attirée par Anne, laquelle pense pouvoir trouver en lui le vrai amour. Quant à Cécile, elle voue une certaine admiration à Anne, qui lui a beaucoup appris et qu'elle considère comme la femme la plus importante dans sa vie. Cependant, elle craint que sous son influence, son père se sédentarise et ne veut pas perdre la complicité qui les lie. Anne prend en main la vie de Cécile très vite. De plus, elle manifeste sa réprobation vis-à-vis de la relation avec Cyril, interdisant à ce dernier de voir Cécile. Peu à peu, Raymond s'éloigne d'Elsa et devient de plus en plus fasciné par la femme responsable et sensée qu'est Anne. Il décide finalement de se marier et Elsa doit quitter la villa. Anne se révèle intransigeante et résolue à réformer le père et la fille à sa façon. Cécile a du mal à accepter la fin de sa complicité avec son père et la fin de beaucoup d'amusements. Elle persuade son ami Cyril de simuler une aventure avec Elsa pour rendre Raymond jaloux. Le stratagème fonctionne. Il est irrité de voir son ancienne maîtresse se tourner vers un homme plus jeune et la reconquérir. Comme Cécile l'a planifié, Anne les surprend et voit ses rêves se briser. Désespérée, elle quitte la villa et se tue dans un accident de voiture sans témoin, probablement un suicide. Dans un premier temps, Cécile et son père sont inconsolables. Et elle se rend compte que c'est en grande partie sa faute si cette femme remarquable est morte. Mais plus tard, le père et sa fille reprennent leur vie facile, en sachant qu'ils n'oublieront jamais cette femme extraordinaire, ni le sentiment dont ils ont fait la connaissance à cause de sa mort, la tristesse. L'éditeur René Julliard perçoit immédiatement le succès que peut obtenir un livre au thème aussi neuf, signé par un auteur aussi jeune, dans un style soigné. L'écrivaine est mineure à l'époque, et son père, par peur de voir la famille harcelée, lui conseille de prendre un pseudonyme. Françoise, qui adore déjà Proust, choisit celui du prince de Sagan dans « À la recherche du temps perdu ». Elle emprunte le titre de « Bonjour Tristesse » à un vers d'Éluard. Au cinéma, le roman a été adapté en 1958 par Otto Preminger, avec Deborah Kerr, David Niven et Jane Seberg. Françoise Marie-Anne Coirez, plus connue sous le pseudonyme de François Sagan, est née le 21 juin 1935 à Cajard, dans le Lot, où vit sa famille maternelle, les Lobard, propriétaires terriens. Sa mère, Marie Lobard, 1903-1989, est l'épouse de Pierre Coirez, 1900-1978, issue d'une famille d'industriels du nord de la France. Françoise est la quatrième enfant du couple. Un frère est mort en bas âge. Après la perte de cet enfant, la naissance d'une petite fille apparaît aux Coirez comme un cadeau du ciel. Il passe à Françoise tous ses caprices. Elle était une enfant pourri gâtée. Toute sa vie, elle a joui d'une totale impunité. François Sagan est surnommé Kiki. Son enfance se partage entre Paris et le Lot. Durant l'occupation, la famille vit à Lyon et passe week-ends et vacances à Saint-Marcellin dans l'Isère, où Pierre Coirez dirige l'antenne de la Compagnie Générale d'Électricité. À côté d'une scolarité chaotique, Sagan lit énormément. Les nourritures terrestres de Gide à 13 ans, L'homme révolté de Camus à 15 ans, Les illuminations de Rimbaud à 16 ans, Musset, Rousseau, Cocteau, Shakespeare, Proust, Benjamin Constant, Nietzsche, Faulkner, Colette, Prévert, Stendhal, Flaubert, Hemingway, Fitzgerald, Malraux et Sartre, avec qui elle deviendra une amie plus tard. Dans La France de René Coty, en 1954, le roman Bonjour Tristesse fait un scandale. Elle se lie d'amitié avec de grands noms, Julien Green, Michel Déon, Pierre Lazareff, Florence Malraux, ses amis proches qu'elle gardera toute sa vie. Bernard Franck et Florence Malraux ont le même âge qu'elle, les mêmes origines bourgeoises et le même amour des livres. Elle est happée par le succès et l'argent. Elle achète aussi des voitures de sport qu'elle conduit à vive allure dans Paris la nuit. Elle prend l'habitude d'écrire la nuit et de se lever très tard. Éternelle adolescente, elle incarne un mode de vie et même une mode pour les jeunes gens avec ses jeans, ses marinières à rayures, ses espadrilles sans chaussettes. François Sagan a tout dans ses années de prospérité, de l'immédiate après-guerre, du phénomène de société. Le 13 avril 1957, elle perd le contrôle de son Aston Martin, lancé à 160 km/h sur une route nationale, près de Milly-la-Forêt dans l'Essonne. Alors que les passagers sont éjectés de la voiture et s'en tirent avec des blessures légères, François Sagan reste entre la vie et la mort pendant plusieurs jours. À la sortie de l'hôpital, elle entame une cure de désintoxication. En 1958, elle épouse l'éditeur Guy Scheuler, plus âgé qu'elle, de 20 ans, qui la protège depuis de nombreuses années comme un père. Elle en divorce en 1960 pour se marier 2 ans plus tard avec un mannequin américain, Robert Westhoff, 1930-1990, dont elle a eu un fils, Denis Westhoff. Son grand amour est la styliste Peggy Roche, ancienne journaliste de mode et ex-épouse de l'acteur Claude Brasseur, qui, jusqu'à sa mort en 1991, fut sa fidèle compagne. François Sagan a écrit une 20aine de romans, 30 millions de livres vendus en France, de nombreuses traductions en 15 langues, ses thèmes favoris, la vie facile, les voitures rapides, les villas bourgeoises, le soleil, un mélange de cynisme, de sensualité, d'indifférence et d'oisiveté. On retiendra La Chamade en 1965, Un peu de soleil dans l'eau froide, 1969, Des bleus à l'âme en 1972, mais aussi du théâtre et aussi des chansons pour Juliette Gréco. En 1960, en pleine guerre d'Algérie, elle signe le manifeste des 121, ou déclaration sur les droits à l'insoumission des appelés dans la guerre d'Algérie. Elle fait connaissance avec François Mitterrand. Elle défraie la chronique mondaine et la chronique judiciaire avec des affaires de drogue en 1995 et surtout de fraude fiscale dans l'affaire Elf en 2002. Elle est ruinée par sa condamnation dans l'affaire Elf. Elle meurt le 24 septembre 2004 d'une embolie pulmonaire à l'hôpital de Honfleur, près de son ancienne résidence d'Écquemauville. Elle est inhumée auprès de son frère, de ses parents, de son second mari, Robert Westhoff, et de sa première compagne, Peggy Roche, dans le cimetière de Sauzac, à quelques kilomètres de Cajar, dans le Lot. En 1998, la romancière avait rédigé son épitaphe. Sagan Françoise fit son apparition en 1954 avec un mince roman, Bonjour Tristesse, qui fut un scandale mondial. Sa disparition, après une vie et une œuvre également agréable et bâclée, ne fut un scandale que pour elle-même. Sur ce sentiment inconnu dont l'ennui, la douceur m'obsède. J'hésite à poser le nom, le beau nom grave de tristesse. C'est un sentiment si complet, si égoïste, que j'en ai presque honte alors que la tristesse m'a toujours paru honorable. Je ne la connaissais pas, elle, mais l'ennui, le regret, plus rarement le remords. Aujourd'hui, quelque chose se replie sur moi, comme une soie, énervante et douce, et me sépare des autres. Cet été-là, j'avais 17 ans, et j'étais parfaitement heureuse. Les autres étaient mon père et Elsa, sa maîtresse. Il me faut tout de suite expliquer cette situation, qui peut paraître fausse. Mon père avait 40 ans. Il était veuf depuis 15. C'était un homme jeune, plein de vitalité, de possibilités. Et à ma sortie de pension, 2 ans plus tôt, je n'avais pas pu ne pas comprendre qu'il vécut avec une femme. J'avais moins vite admis qu'il en changea tous les 6 mois. Mais bientôt, sa séduction, cette vie nouvelle et facile, mes dispositions m'y amenèrent. C'était un homme léger, habile en affaires, toujours curieux et vite lassé, et qui plaisait aux femmes. Je n'eus aucun mal à l'aimer, et tendrement, car il était bon, généreux, gai et plein d'affection pour moi. Je n'imagine pas de meilleur ami, ni de plus distrayant. À ce début d'été, il poussa même la gentillesse jusqu'à me demander si la compagnie d'Elsa, sa maîtresse actuelle, ne m'ennuierait pas pendant les vacances. Je ne pus que l'encourager, car je savais son besoin des femmes et que, d'autre part, Elsa ne nous fatiguerait pas. C'était une grande fille rousse, mi-créature, mi-mondaine, qui faisait de la figuration dans les studios et les bars des Champs-Élysées. Elle était gentille, assez simple et sans prétention sérieuse. Nous étions d'ailleurs trop heureux de partir, mon père et moi, pour faire objection à quoi que ce soit. Il avait loué, sur la Méditerranée, une grande villa blanche, isolée, ravissante, dont nous rêvions depuis les premières chaleurs de juin. Elle était bâtie sur un promontoire dominant la mer, cachée de la route par un bois de pin. Un chemin de chèvre descendait à une petite crique dorée, bordée de rochers roux, où se balançait la mer. Les premiers jours furent éblouissants. Nous passions des heures sur la plage, écrasés de chaleur, prenant peu à peu une couleur saine et dorée, à l'exception d'Elsa qui rougissait, épelée dans d'affaires souffrances. Mon père exécutait ses mouvements de jambes compliqués pour faire disparaître un début d'estomac incompatible avec ses dispositions de Don Juan. Dès l'aube, j'étais dans l'eau, une eau fraîche et transparente, où je m'enfouissais, où je m'épuisais en des mouvements désordonnés pour me laver de toutes les ombres, de toutes les poussières de Paris. Je m'allongeais dans le sable, en prenais une poignée dans ma main, le laissais s'enfuir de mes doigts en un jet jaunâtre et doux. Je me disais qu'il s'enfuyait comme le temps, que c'était une idée facile et qu'il était agréable d'avoir des idées faciles. C'était l'été. Le 6e jour, je vis Cyril pour la première fois. Il longeait la côte sur un petit bateau à voile et chavira devant notre crique. Je l'aidai à récupérer ses affaires et, au milieu de nos rires, j'appris qu'il s'appelait Cyril, qu'il était étudiant en droit et passait ses vacances avec sa mère dans une villa voisine. Il avait un visage de latin, très brun, très ouvert, avec quelque chose d'équilibré et de protecteur, qui me plut. Pourtant, je fuyais ces étudiants de l'université, brutaux, préoccupés d'eux-mêmes, de leur jeunesse surtout, y trouvant le sujet d'un drame ou un prétexte à leur ennui. Je n'aimais pas la jeunesse. Je leur préférais de beaucoup les amis de mon père, des hommes de 40 ans qui me parlaient avec courtoisie et attendrissement, me témoignaient une douceur de père et d'amant. Mais Cyril me plut. Il était grand et parfois beau, d'une beauté qui donnait confiance. Sans partager avec mon père cette aversion pour la laideur qui nous faisait souvent fréquenter des gens stupides, j'éprouvais en face des gens dénués de tout charme physique une sorte de gêne, d'absence. Leur résignation à ne pas plaire me semblait une infirmité indécente. Car que cherchons-nous, sinon plaire ? Je ne sais pas encore aujourd'hui si ce goût de conquête cache une surabondance de vitalité, un goût d'emprise ou le besoin furtif, inavoué, d'être rassuré sur soi-même, soutenu. Quand Cyril me quitta, il m'offrit de m'apprendre la navigation à voile. Je rentrais dîner, très absorbé par sa pensée, et ne participais pas ou peu à la conversation. C'est à peine si je remarquais la nervosité de mon père. Après dîner, nous nous allongeâmes dans des fauteuils, sur la terrasse, comme tous les soirs. Le ciel était éclaboussé d'étoiles. Je les regardais, espérant vaguement qu'elles seraient en avance et commenceraient à sillonner le ciel de leur chute. Mais nous n'étions qu'au début de juillet. Elles ne bougeaient pas. Dans les graviers de la terrasse, les cigales chantaient. Elles devaient être des milliers, ivres de chaleur et de lune, à lancer ainsi ce drôle de cri des nuits entières. On m'avait expliqué qu'elles ne faisaient que frotter l'une contre l'autre leur élytre. Mais je préférais croire à ce chant de gorge guttural, instinctif comme celui des chats en leur saison. Nous étions bien. Des petits grains de sable entre ma peau et mon chemisier me défendaient seuls des tendres assauts du sommeil. C'est alors que mon père tout sauta et se redressa sur sa chaise longue. « J'ai une arrivée à vous annoncer, » dit-il. Je fermai les yeux avec désespoir. Nous étions trop tranquilles, cela ne pouvait durer. « Dites-nous vite qui ?» cria Elsa, toujours avide de mondanité. « Anne Larsen, » dit mon père, et il se tourna vers moi. Je le regardais trop étonné pour réagir. Je lui avais dit de venir si elle était trop fatiguée par ses collections, et elle arrive. Je n'y aurais jamais pensé. Anne Larsen était une ancienne amie de ma pauvre mère et n'avait que très peu de rapport avec mon père. Néanmoins, à ma sortie de pension 2 ans plus tôt, mon père, très embarrassé de moi, m'avait envoyé à elle. En une semaine, elle m'avait habillé avec goût et appris à vivre. J'en avais conçu pour elle une admiration passionnée qu'elle avait habilement détournée sur un jeune homme de mon entourage. Je lui devais donc mes premières élégances et mes premiers amours, et lui en avait beaucoup de reconnaissance. À 42 ans, c'était une femme très séduisante, très recherchée, avec un beau visage orgueilleux et là, indifférent. Cette indifférence était la seule chose qu'on pût lui reprocher. Elle était aimable et lointaine. Tout en elle reflétait une volonté constante, une tranquillité de cœur qui intimidait. Bien que divorcée et libre, on ne lui connaissait pas d'amant. D'ailleurs, nous n'avions pas les mêmes relations. Elle fréquentait des gens fins, intelligents, discrets, et nous des gens bruyants, assoiffés, auxquels mon père demandait simplement d'être beau ou drôle. Je crois qu'elle nous méprisait un peu, mon père et moi, pour notre parti pris d'amusement, de futilité, comme elle méprisait tout excès. Seule, nous réunissait des dîners d'affaires. Elle s'occupait de couture et mon père de publicité, le souvenir de ma mère et mes efforts, car, si elle m'intimidait, je l'admirais beaucoup. Enfin, cette arrivée subite apparaissait comme un contretemps si l'on pensait à la présence d'Elsa et aux idées d'Anne sur l'éducation. Elsa monta se coucher après une foule de questions sur la situation d'Anne dans le monde. Je restai seul avec mon père et vins m'asseoir sur les marches à ses pieds. Il se pencha et posa ses 2 mains sur mes épaules. « Pourquoi es-tu si efflanquée, ma douce ? Tu as l'air d'un petit sage sauvage. J'aimerais avoir une belle fille blonde, un peu forte, avec des yeux en porcelaine. Et la question n'est pas là, dis-je. Pourquoi as-tu invité Anne ? Et pourquoi a-t-elle accepté ? Pour voir ton vieux père, peut-être, on ne sait jamais. Tu n'es pas le genre d'homme qui intéresse Anne, dis-je. Elle est trop intelligente, elle se respecte trop. Et Elsa ? As-tu pensé à Elsa ? Tu t'imagines les conversations entre Anne et Elsa ? Moi pas. Je n'y avais pas pensé, avoua-t-il. C'est vrai que c'est épouvantable. Cécile, ma douce, et si nous retournions à Paris ? Il riait doucement, en me frottant la nuque. Je me retournais et le regardais. Ses yeux sombres brillaient, des petites rides drôles en marquaient les bords. Sa bouche se retroussait un peu. Il avait l'air d'un faune. Je me mis à rire avec lui, comme chaque fois qu'il s'attirait des complications. « Mon vieux complice, » dit-il, « que ferais-je sans toi ?» Et le ton de sa voix était si convaincu, si tendre, que je compris qu'il aurait été malheureux. Tard dans la nuit, nous parlâmes de l'amour, de ses complications. Aux yeux de mon père, elles étaient imaginaires. Il refusait systématiquement les notions de fidélité, de gravité, d'engagement. Il m'expliquait qu'elles étaient arbitraires, stériles. D'un autre que lui, cela m'eût choqué. Mais je savais que dans son cas, cela n'excluait ni la tendresse ni la dévotion, sentiment qui lui venait d'autant plus facilement qu'il les voulait, les savait provisoires. Cette conception me séduisait. Des amours rapides, violentes et passagères. Je n'étais pas à l'âge où la fidélité séduit. Je connaissais peu de choses de l'amour, des rendez-vous, des baisers et des lassitudes. C'était la chronique littéraire de Gilles Labouroir. À bientôt.